On va parler chorale maintenant. Je vais demander à Isabelle Rouche, neurologue au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche au CHU de Saint-Étienne, responsable de la cellule régionale d'observation de la maladie d'Alzheimer en Aura. Isabelle Rouche cherche à améliorer la prise en charge de la douleur chronique des malades d'Alzheimer. Et pour ça, vous allez nous parler d'une étude menée autour d'ateliers chorale et peinture. Alors, je vais demander aussi à Yves Fournier, qui est président du groupe Apicil, sans qui cette expérience n'aurait pas pu être possible. Merci de venir nous dire pourquoi vous avez choisi de soutenir ce projet. Je vous en prie.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je représente ici aujourd'hui le groupe Apicil, qui est le troisième groupe de protection sociale français. Nous exerçons plusieurs métiers au sein de ce groupe, la gestion de la retraite complémentaire à Agirc-Arrco, le métier de la prévoyance et de la mutuelle pour garantir nos assurés en cas de risque lié à l'incapacité, l'invalidité ou la maladie. Nous avons enfin une activité d'épargne et de gestion d'actifs dans la continuité de notre accompagnement. Alors, s'agissant de notre présence aux côtés de la Fondation pour la recherche Alzheimer aujourd'hui, eh bien, cela correspond tout à fait à la raison d'être du groupe, qui est d'accompagner toutes les vies, et ce, pendant toute la vie. Pour cela, nous disposons de fonds sociaux destinés à prévenir les risques du vieillissement, à accompagner la dépendance et, en corollaire, les aidants, directement impliqués dans la gestion quotidienne de la perte d'autonomie. Ces fonds sont administrés par des conseils d'administration paritaires qui permettent la réalisation de nombreuses actions liées à la prévention santé de nos publics ou à l'accompagnement du handicap. Notre fonds prévoyance a souhaité créer une fondation d'utilité publique dont l'objet est la lutte contre la douleur. Cette structure agit au quotidien pour soulager la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. C'est pourquoi nous avons sollicité Madame Rouche, à qui je cède volontiers la parole. Je vous remercie.
Et oui, parce qu'il faut des fonds pour soutenir des initiatives comme celle que va nous présenter maintenant Isabelle Rouche. Merci beaucoup de votre intervention.
Merci beaucoup à la Fondation Recherche Alzheimer de m'avoir invité à présenter ces travaux, et un grand merci à la Fondation Apicil de nous avoir soutenus dès le départ pour pouvoir réaliser ces projets. Sans eux, ils n'existeraient pas. Donc, on va parler ensemble du lien entre douleur chronique, vieillissement cognitif et maladie d'Alzheimer, pour mieux comprendre ce lien entre douleur, cognition, et puis améliorer la prise en charge des patients avec maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, on le sait, touche davantage les patients de 65 ans et plus. Ce n'est pas le professeur de Zestri qui nous a parlé des patients jeunes qui nous contrediraient. Et à cet âge-là, on sait qu'il y a d'autres maladies qui sont là, diverses et variées, dont certaines d'entre elles donnent des douleurs chroniques, comme par exemple toutes les pathologies rhumatologiques, l'arthrose ou autres, les sciatiques, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et les traitements, qu'ils soient les traitements pour la douleur, les traitements antalgiques, notamment les traitements un petit peu forts, la codéine ou autres, et puis aussi des antidépresseurs, par exemple les vieux antidépresseurs qui sont donnés pour la douleur, ne sont pas bons, notamment pour la mémoire ou pour d'autres pathologies. Et donc, on sait que pour prendre en charge la douleur, les recommandations nationales, dans un premier temps, sont de tenter des thérapies qu'on appelle non médicamenteuses. Ça peut être l'hypnose, ça peut être aussi une hygiène de vie adaptée, etc. Et parmi ces thérapies qui ont montré leur efficacité dans la douleur chronique, il y a la musicothérapie. Alors, il y a des travaux qui sont intéressés au lien entre musicothérapie et maladie d'Alzheimer. Des études ont montré que la musicothérapie améliorait le fonctionnement cognitif. Pourquoi ? Notamment, et l'équipe du professeur Samson à Lille, qui a beaucoup travaillé dessus, montrait que la mémoire musicale, elle fonctionnait, elle ne passait pas par les mêmes réseaux neuronaux que la mémoire épisodique dont on parlait, la mémoire verbale, la mémoire dont on parlait tout à l'heure, les professeurs Krolak-Salmon et les orateurs précédents. Par ailleurs, la musicothérapie, elle permet d'améliorer l'humeur, l'anxiété, la dépression. Il y a des travaux qui ont montré ça dans la maladie d'Alzheimer. Et puis aussi l'estime de soi, on l'a vu à l'annonce d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer, qu'on soit jeune, hein, comme disait le professeur Desestrées, encore plus, mais malgré tout, à 75 ou 80 ans, c'est quand même aussi un bouleversement. Donc c'est important aussi de prendre en charge cet élément. Donc c'est pour ça que la musicothérapie peut être intéressante aussi dans ce cadre-là. Musicothérapie et douleur, c'est vrai, il y a beaucoup de travaux qui ont montré qu'on pouvait réduire la douleur chronique avec la musicothérapie. Il y a eu beaucoup d'études dans diverses pathologies, comme la fibromyalgie, qui est bien connue, les douleurs rhumatologiques, etc. En revanche, on a peu d'études spécifiques sur les personnes âgées. Et puis, pourquoi s'intéresser spécifiquement à la douleur chronique dans la maladie d'Alzheimer? C'est vrai qu'il y a de nombreuses décennies, à l'époque où on parlait de démence, on disait, particulièrement pour les personnes qui ont une maladie évoluée, les démons, ils ont plus mal. Hein, c'est comme les bébés, les nourrissons, ils ont pas mal, ils souffrent pas. Voilà, ça c'était... Alors qu'il y a des études récentes, notamment en imagerie fonctionnelle, qui montrent qu'au contraire... Il y a une hyperréactivité douloureuse chez ces patients qui présentent une maladie d'Alzheimer. Donc, pour prendre en considération tous ces éléments, donc on a souhaité évaluer l'efficacité de la prise en charge en atelier champ sur la douleur physique et son retentissement, l'anxiété et la dépression, mais aussi la qualité de vie, et puis l'estime de soi et la cognition, parce que c'est quand même dans la maladie d'Alzheimer un élément très important. Alors, on sait, on fait de la recherche, que les études, les seules études vraiment solides pour mesurer l'efficacité de quelque chose, c'est de faire des études qu'on appelle randomisées, contrôlées, comme un essai thérapeutique médicamenteux. C'est-à-dire qu'on va avoir deux groupes qu'on va comparer, qu'on va tirer au sort. Les personnes qui vont mesurer l'effet des résultats ne connaîtront pas si le patient est allé dans un groupe ou dans l'autre. Et donc, on a suivi cette méthodologie. Donc, on avait 6 groupes de 10 patients avec une maladie d'Alzheimer débutante, 30 patients qui faisaient partie d'un atelier champ, et puis 30 patients, 3 groupes qui faisaient partie d'un atelier peinture. On a comparé un atelier peinture parce que ça se rapproche beaucoup du champ. Donc, on a inclus les patients dans 3 services, donc en neurologie au CHU de Saint-Étienne, en gériatrie aux Hospices Civils de Lyon chez le professeur Krolak-Salmon et puis aussi au CHU de Saint-Étienne. On a fait 12 ateliers de champ et de peinture, donc toutes les semaines pendant 3 mois. Les ateliers étaient menés par une chef de chœur professionnelle ou un professeur de peinture professionnel. Pourquoi ? Parce que les personnes n'étaient pas vues comme des patients Alzheimer, mais comme des chanteurs ou des personnes, des élèves, entre guillemets, de peinture. Ce qui fait que pendant les ateliers, je suis allée voir, la chef de chœur, parfois, elle les poussait dans leur retranchement. Par exemple, donc, ils apprenaient des chansons. On verra après, tout à l'heure, un petit extrait. Et puis, des chansons qui sont connues, mais malgré tout, qu'on ne connaît pas par cœur. Enfin, en tout cas, moi, je ne les connais pas par cœur. Ces chansons ont été choisies par les patients, d'ailleurs. Et de temps en temps, elle leur disait, fermez les yeux, en gros, pour ne plus avoir le texte devant vous. Puis chantez, puis, si vous ne savez pas, faites là, ce n'est pas grave. Au début, je disais, mais j'y arriverai jamais. Et puis, en fait, ils ont mémorisé les chansons. Tout ça pour dire que le regard pas médical, c'était intéressant. Et donc, à la fin, il y a eu un concert avec des jeunes chanteurs du Centre de la Voix, qui est une école de chant à Lyon. Et puis, il y avait une exposition de peinture pour les autres patients, avec les familles et l'équipe soignante. Et on a évalué ce qu'on a dit tout à l'heure, la douleur chronique, l'anxiété, la dépression, la cognition, l'estime de soi, avec des échelles qui sont validées internationalement, vraiment de manière sérieuse, avant l'étude, après et puis un mois après l'étude. Alors, deux, trois petits résultats rapidement. Donc là, c'est l'évolution de la douleur chronique, c'était notre objectif principal. Alors, on voit que donc en rouge, on a le champ, en vert, on a la peinture. Donc, à gauche, un mois, juste avant les ateliers, au milieu, après les ateliers, et à droite, un mois après les ateliers. Donc, on voit qu'en fait, les deux prises en charge permettent de diminuer la douleur chronique. Un résultat donc, sur l'anxiété. Donc là, c'est davantage finalement la peinture qui diminue l'anxiété, mais on a un résultat qui est significatif dans les deux groupes. Et puis là, donc, le fonctionnement cognitif, c'est un test d'attention. Alors à gauche, donc, on a le champ avant et après les ateliers, et puis à droite, la peinture avant et après les ateliers. Donc on voit qu'on a une amélioration plus importante pour le champ, mais les deux permettent d'améliorer l'attention. On n'a pas refait les tests un mois après, sinon les gens auraient connu par cœur les résultats aux tests. Donc, en conclusion, ces ateliers champ et peinture, bon, on voit qu'ils fonctionnent hein, sur les différents, sur la douleur, mais aussi l'attention, l'estime de soi, je ne l'ai pas montré, mais ça marche bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des patients, on peut choisir peinture ou champ en fonction de ce qu'ils aiment bien. Et puis, c'est simple à mettre en place, donc c'est intéressant. Mais pour aller plus loin, puisqu'on est, voilà, on est des chercheurs, on souhaite mieux comprendre le lien entre douleur chronique et fonctionnement cérébral. Donc là, c'est un deuxième projet qui est bien différent, qui a été subventionné aussi par la Fondation. Donc la douleur chronique, il y a des études qui ont montré qu'elle est associée à un moins bon fonctionnement intellectuel, entre guillemets. Mais ce sont des études qu'on appelle transversales, c'est-à-dire qu'on prend des patients qui ont une douleur chronique, qui ont parfois très mal, puis on leur demande de faire des tests de mémoire, d'attention, etc. Puis on les compare à des patients qui n'ont pas de douleur. Et bien, il est bien possible que le fait d'avoir de la douleur, on n'arrive pas à se concentrer, on pense à sa douleur, et bon, c'est pour ça que les résultats sont moins bons. Après, c'est plutôt le fait d'avoir une douleur chronique qui semble pas très bon. Donc, nous, ce qu'on a souhaité, c'est d'étudier ce lien dans le temps. Chez des personnes, là, c'est des sujets âgés, qui ont une douleur chronique au départ, et on va voir l'évolution dans le temps de leur fonction cognitive. Et donc, l'hypothèse, c'est que le fait d'avoir de la douleur chronique, ça pourrait plus favoriser le déclin de ses fonctions intellectuelles. Alors, comment on a fait ? Donc, je travaillais avec une équipe de chercheurs de l'INSERM de Bordeaux, que j'ai eu la chance de rejoindre tout récemment. Donc, on a à disposition, ce qui est très riche, des cohortes, ce sont des populations générales, des personnes âgées de plus de 65 ans qui sont suivies. Il y en a une, l'étude PACUI, depuis 30 ans, et l'autre, Détroit Cité, depuis 20 ans. Donc, ils ont des examens réguliers avec recueil de douleurs chroniques et puis également donc, des tests qu'on appelle neuropsychologiques pour évaluer mémoire, etc. Ils sont suivis à peu près tous les deux ans. Donc, on a mesuré la douleur chronique au départ. Puis après, on avait des indicateurs, on avait au moins les traitements, etc. par la suite pour voir s'ils continuaient à avoir des douleurs chroniques et puis ce fonctionnement cognitif par la suite. Et là, donc, on a étudié le lien sur 15 ans. Donc là, vous avez donc, le résultat d'un test. Donc en rose, vous avez les personnes qui n'ont pas de douleur chronique au départ, et en bleu, les personnes qui ont une douleur chronique. Et on voit, donc j'ai pas de, on n'a pas de pointeur, non. Donc en fait, c'est le lien dans le temps, c'est les différentes évaluations neuropsychologiques. Et on voit que les personnes qui n'ont pas de douleur chronique au départ ont des meilleurs résultats à ces tests neuropsychologiques. Et on a en fait une petite accélération du déclin, la pente qui s'accélère parmi ceux qui ont une douleur chronique au départ. Tout ça en tenant compte de tout un tas d'autres facteurs. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? En fait, donc, il y a une zone qui s'appelle l'insula, au milieu du cerveau, on va dire, qui gère la douleur. Et il y a la partie P postérieure, c'est celle où quand vous vous faites piquer, vous ressentez, ça vous fait sursauter. Et puis une partie qui s'appelle antérieure, qui est antérieure, et qui va être reliée à ces zones qui gèrent la cognition, hein, les zones qui sont plus antérieures, le lobe frontal notamment. Et c'est ça qui expliquerait ces résultats. Donc là, on va continuer ces travaux. On a une deuxième cohorte sur laquelle on a de la neuroimagerie à différents temps, à la fois, on verra l'atrophie, aussi la connectivité, hein, ces liens entre les différentes aires. Et on pourra savoir si c'est plutôt la douleur chronique qui donne un déclin cognitif ou si c'est de plus mauvaises performances cognitives qui peuvent aussi engendrer de la douleur chronique, parce que les patients qui ont des plus mauvaises performances cognitives peuvent être plus à risque. Donc, pour conclure et pour faire un petit peu le lien entre ces deux parties, justement, l'équipe INSERM de Bordeaux, dirigée par le professeur Amieva, a entendu parler de notre projet de chorale et ils ont invité les patients au Palais des Congrès d'Arcachon pour inaugurer la semaine de la mémoire il y a 4 ans. Et donc, on a chanté tous ensemble au Palais des Congrès, donc à la partie... derrière, vous voyez l'équipe de recherche avec notre chef de service à l'époque, le professeur Laurent, à gauche.
Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, là aussi, vous êtes dans l'inclusion, dans la mixité. Il n'y a pas d'un côté les patients, de l'autre côté, la vie qui continue. Et du coup, c'est la vie qui continue pour tout le monde.
Et on a passé 2 jours avec les patients à l'hôtel, en fait. On a
Il était difficile de faire venir les choristes à Arcachon, donc l'équipe médicale a pris la relève.
Oui, c'était là. Les jeunes, oui.
Combien de patients dans cette chorale?
On avait 3 groupes de 10 patients et on a...
La musique, ça fait toujours du bien. Il n'y a pas que le ping-pong dans la vie. La musique, la peinture également. Et alors, est-ce que là aussi, on peut conseiller aux familles d'intégrer des chorales? Est-ce que c'est des choses qui sont reproductibles à titre individuel?
D'ailleurs, on voit dans nos consultations, on a des patients qui participent à des chorales et qui continuent, et moi je les encourage largement à continuer.
Un grand merci, Padam, 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 Isabelle Rouche.
Merci.